l'histoire universelle de Marseille. Voici en cet épisode une version sonore du livre d'Alesside Alumbrea sorti aux éditions Agone. Aujourd'hui, Marseille et les échanges maritimes à l'ère de la mondialisation.
Putain, je me fume un petit cigarillon en cours de route.
Vas-y.
Ça te gêne pas ?
Non.
Putain, c'est pas garanti, attention, je suis un si petit fumeur, je fume un cigarillon ou deux par mois.
Et pourquoi aujourd'hui alors ? Pourquoi maintenant ?
Comme ça. À cause du stress, je suis très anxieux de parler devant un micro.
Alors, regarde, c'est pas un micro, ça c'est un rasoir.
Putain, on dirait, ouais. Ou l'espèce de mandibule d'un animal, tu sais, dans les films futuristes, là. Justement, on va attaquer sur l'actualité, là, à savoir les récentes déclarations là, de Jacques Saad, enfin, de Godin et de Jacques Saad à propos du port de Marseille, hein, puisque c'est le 4 juin, là, le 4 juin dernier, là, qu'il y a Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, qui est venue à Marseille, voilà, appelée à une réforme du port. Appeler les pouvoirs publics, le patronat et les syndicats à travailler ensemble pour améliorer la compétitivité du port. C'est pas beau ça ? Et quant à Godin, de son côté, il a proposé notamment que les collectivités locales qui financent massivement les ports soient représentées dans le conseil d'administration. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on parle de port autonome, le port autonome n'est en réalité autonome que par rapport à la ville et à sa région.
Tu veux dire que le port est géré depuis Paris
ouais.
Mais depuis quand ? Depuis
1966. C'est un organisme public. Donc ce que propose Godin, là, ce que propose Parisot, ça serait de... Je cite les propos du président de la Chambre de commerce et d'industrie, là, Jacques Pfister. Il s'agit de mieux répartir les rôles pour organiser un co-développement public-privé. Autrement dit, les pouvoirs publics conserveraient la construction des infrastructures, l'organisation de la navigation dans les espaces, la sécurité, tout ça. Alors, tout ce qui est les fonctions du commerce, de l'industrie, serait, comme ils disent si bien, externalisé, c'est-à-dire passer au secteur concurrentiel, au privé. Quoi, hein. Autrement dit, c'est vraiment une refonte du statut du port, pour la première fois depuis 1966. Et proposition appuyée par Saadé, Jacques Saadé, dans le PDG de la CMA-CGM, dont on va parler après, qui a proposé que très vite se mette en place un calendrier de négociation. Et en aparté, Saadé a dit que l'arrivée de Sarkozy est un espoir, car si ça avait été les socialistes, on ne pourrait pas parler de privé sur le port. Et évidemment, les socialistes qui n'en ratent pas une se sont dépêchés par la voix de Dominique Strauss-Kahn de dire que ils ne seraient pas contre le fait de permettre des investissements privés sur le port de Marseille. Donc, tout ça intervient quand même après une longue grève des dockers sur Fos, sur les bassins de Fos, quoi, hein, qui a bloqué le trafic pendant un certain temps. Alors, il s'agissait du terminal gazier de GDF, qui devait normalement être manipulé, enfin, où les manipulations devaient être le fait d'employés de GDF et pas de dockers. Donc là, le syndicat des dockers exigeait qu'il y ait au moins, je crois, c'est 4 ou 5 postes de dockers créés, finalement, ils en ont eu 3. Alors ça paraît un peu ubuesque, vu de loin une grève si longue pour quelques postes de travail, mais c'est que ça va bien plus loin que ça. C'est que c'est la première brèche justement dans l'organisation du port. Surtout qu'en plus il y a actuellement qu'on a démarré la construction de Fos 2XL, qui est un terminal privé qui sera spécialement exploité par CMA-CGM. Donc là-bas, selon quelle modalité ça va être exploité. Est-ce qu'ils vont amener leur propre personnel de déchargement? Est-ce qu'il y aura des dockers? Est-ce qu'il y aura un partage des rôles, etc. Enfin, en tout cas, c'est clair que c'est une nouvelle attaque contre le statut des dockers, quoi. Donc après, il y a d'autres projets, FOSS 3XL et FOSS 4XL pour dans quelques années, qui visent à faire littéralement une espèce de port privé qui correspondrait plus ou moins à la DARS 3 du projet initial de FOSS sur mer, la DARS 3 qui n'avait pas été réalisée finalement dans les années 70. Et alors, c'est assez significatif le rôle que joue CMA CGM dans cette affaire.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que CMA CGM ?
CMA, c'est la compagnie maritime d'affrètement. Ça a été créé par les frères Saadé, Jacques et Johnny Saadé, qui étaient des hommes d'affaires libanais, avec des capitaux allemands. Je ne me rappelle plus les dates, mais c'est au début des années 80. Les Saadé, sont toujours des gens très proches de Jacques Chirac. De toute façon, à ce niveau-là, tu bénéficies nécessairement de soutien politique en haut lieu pour te lancer dans une entreprise de cette envergure. Et petit à petit, c'est une société qui avait son siège social à Paris. Hein, et ils ont petit à petit avalé pas mal de leurs concurrents, quoi. Ça porte leur capacité, leur navire, j'ai pas les chiffres, je crois que c'est 240 navires, quelque chose comme ça. Enfin, ils envisagent à l'horizon 2008, un truc comme 300 navires. Et ces navires, on a Marseille pour port d'attache. Hein. Je connais pas le détail, mais je sais même pas s'il y en a un seul qui est sous pavillon français, ou alors c'est peut-être pavillon de Kerguelen. Je veux dire, c'est la CMA CGM, c'est on est dans une toute autre configuration que la configuration des armateurs marseillais type Fraissinet ou Fabre qui ont disparu dans les années 70, ou des armateurs compagnies d'économie mixte type Messagerie Maritime ou Compagnie Générale Transatlantique. C'est-à-dire, en gros, voilà, jusqu'à la fin des années 60, la navigation dans le monde, c'est le fait de, en gros, elle est sous le pavillon des grandes puissances industrielles, commerciales et financières du monde. C'est-à-dire, c'est des États-nations qui, pour des raisons stratégiques, de politique économique, d'expansion coloniale, etc., ont leur pavillon, subventionnent. L'armement maritime subventionne également largement la construction maritime, puisque bien souvent les navires sont construits à l'intérieur même des frontières. Et ce qui se traduit aussi dans le cas de la France, par exemple, par le fait d'avoir des équipages nationaux et relativement protégés, bien payés. Au terme de pas mal de luttes, hein, c'est pas tombé du ciel. Hein, bon. Marion Lancourt, dont mon père naviguait sur les messageries maritimes, ils sont devenus après la CGM. Il a commencé à naviguer en 1946, il a terminé en 1979. Et là, il a participé à toutes les grandes grèves de 1953, il y a eu des grèves de marins. Et à l'époque, grève de marins, ça voulait dire tu bloquais la quasi-totalité des ports de l'Hexagone. À la suite de toutes ces grèves, les marins naviguant sous pavillon français ont réussi à avoir des conditions de travail, de congés, de salaire relativement correctes. Bon, j'ai encore parlé, il y a quelques années, j'ai rencontré un vieux marin à La Corogne, en Galice, là, qui avait navigué, qui connaissait le port de Marseille, qui me disait dans les années 60, le pavillon français, c'est ce qu'il y avait le mieux dans le monde en termes de protection, de garantie, de salaire, tout ça.
Qu'est-ce qui a fait que ça s'est complètement détérioré?
Alors évidemment, ça fait bah, déjà que les marins français, et puis bon, ça vaut aussi pour tous les autres pavillons des grandes puissances, quoi, devenaient chers, quoi. Et ce, au moment où le transport maritime commençait à se multiplier.
Les crises pétrolières, j'imagine, ont provoqué aussi un coup dur dans les échanges maritimes.
Oui, dans le cas particulier de Marseille, il y a un truc qui a été un coup dur, c'est la fermeture du canal de Suez en 67, pendant 13 ans. Mon père faisait les lignes de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Là, à partir de ce moment, les navires des messageries maritimes devaient contourner par Gibraltar, redescendre toute l'Afrique, passer par Cape Town et remonter dans l'océan Indien. À l'époque, attention, c'était des cargos mixtes, c'est-à-dire des paquebots de transport, mais pas des paquebots de croisière. C'est-à-dire qu'une grande partie des gens transitaient par bateau. C'est du trafic passager. Et c'est tombé à peu près 68, on va dire, c'est l'année où définitivement le transport aérien a achevé, en tout cas oui. Sur Marseille, a définitivement achevé le trafic passager sur les longues lignes, quoi, dont il n'est resté que le trafic méditerranéen.
En effet, après l'époque coloniale, après l'intense activité due aux événements d'Algérie, Marseille avait dû chercher un second souffle économique. Et c'est alors que la réouverture du canal de Suez commençait à porter ses fruits que la crise économique s'est faite sentir ici comme ailleurs.
Oui, Marseille est touchée par la crise. D'abord une crise conjoncturelle et ensuite une crise qui tient au renouveau de Marseille, au renouveau des industries, et également aussi à la composition, si vous voulez, du tissu industriel, où il y a énormément de petites et moyennes industries qui, elles, sont très touchées.
Le fait est qu'après un ralentissement, l'activité reprend. Le port autonome de Marseille, le premier de France et deuxième de l'Europe, après Rotterdam, vient à nouveau de dépasser un trafic de 100 millions de tonnes par an, ce qui est un indice d'espoir pour toute la région.
En ce qui concerne l'avenir, je pense que nous pouvons être optimistes. Pourquoi optimistes ? Parce que Marseille a une situation privilégiée sur le bassin méditerranéen. Marseille doit être la grande capitale européenne de la Méditerranée. Et pour ce faire, elle en a les moyens. Grâce à la création de fosses, nous avons de l'espace, nous avons de l'eau, capitale inestimable, des moyens en hommes. Et nous avons de l'énergie sous ses trois formes. Forme nucléaire avec les centrales du Tricastin, forme hydraulique avec l'équipement du Rhône et de la Durance, thermique grâce au fioul, mais également grâce au charbon, car je dois dire que le bassin de Gardanne a le meilleur rendement fond et que nous produisons du kilowatt à très bas prix. Plus tard, nous aurons également le canal Rhône-Rhin qui sera réalisé et la position de carrefour de Marseille s'affirmera. Et d'autre part, le temps de travail diminuant, il faut pouvoir jouir de ses loisirs. Or, nous répondons à un besoin profond des hommes. Qu'est-ce que souhaitent les hommes à l'heure actuelle ? Travailler dans un cadre agréable. Nous l'avons. D'un côté, nous avons la mer, de l'autre côté, nous avons la montagne, et un arrière-pays magnifique que beaucoup nous envient d'ailleurs. Et il n'y a aucun site à l'heure actuelle qui puisse offrir autant de chances.
Mais on a une proportion de pavillons de complaisance maintenant dans la navigation qui est extraordinaire. Et alors, il faut quand même voir une chose, c'est que c'est pas, on parle pas là d'un secteur qui est en pleine déroute. Le trafic mondial par navire en 1960 concernait l'équivalent de 1 milliard de tonnes de marchandises. En 2000, ça concerne 5 milliards. C'est-à-dire qu'en 40 ans de mondialisation, il a quintuplé. Il a quintuplé et la part du pavillon français dans cette navigation s'est quasiment réduite à rien. Il ne reste plus que la SNCM qui, au plus, maintenant est passée sous le contrôle de Veolia. Et le nombre de navires, en 1960, il y avait 326 000 navires, et il y en a 589 000 maintenant. C'est-à-dire, donc, tu vois, c'est un secteur en pleine expansion et qui est complètement. Qui fonctionne plus du tout. Sur ce que moi j'ai connu quand j'étais minot, le port de Marseille dans les années 70, tout avec le trafic conventionnel, des trucs qu'on débarque par palette et tout. Maintenant, si tu veux, en gros, une très grosse partie de ce commerce maritime mondial, ça vient de l'Asie, hein, de l'Asie du Sud-Est, de la Chine. Et la plus grosse partie, n'arrivent pas directement à Marseille. C'est d'énormes porte-containers qui déposent ça sur ce qu'on appelle des hubs. Les hubs, c'est des ports d'éclatement, c'est-à-dire c'est des ports qui ne desservent pas un arrière-pays. En Méditerranée, on en a. Et comme par hasard, ils sont situés à des endroits stratégiques qui jadis étaient contrôlés par les Anglais, Malte, Algésiras.
Oui, et après, chaque pays va chercher les marchandises
après,
dans cette hub.
Après, c'est des navires plus petits, il y a des, qu'on appelle des feeders, qui restent quand même encore des gros bateaux, qui dispatchent ça, qui amènent ça à Naples, à Marseille, à Gênes, à Barcelone, à Alger. Tunis, etc. Mais bon, ceci dit, on a quand même des gros porte-conteneurs qui arrivent à Fos. Donc oui, à partir des années 70, déjà se développe d'un côté la conteneurisation de plus en plus systématique du trafic marchandises, ce qui va modifier quand même... disons, en gros, la conteneurisation, c'est l'instrument de la politique des flux tendus, du just-in-time, quoi. C'est-à-dire une rotation de plus en plus rapide, une circulation de plus en plus rapide de la marchandise qui assure une rotation de plus en plus rapide du capital sur lui-même. Ça, c'est la fin de la ville-port. C'est la fin des villes portuaires. C'est la fin des villes portuaires parce que ça demande de grands espaces de stockage. Ça demande des connexions autoroutières, des parkings. C'est devenu le parking maintenant le principe qui organise l'espace portuaire, et non plus le hangar ou le dock.
D'où Fos, d'où le développement de Fos.
Fos qui apparaît, donc qui est mis en place au début des années 70. Bon, Fos c'est un peu particulier parce qu'une grande partie des quais de Fos sont des quais pétroliers minéraliers, donc du vrac liquide et du vrac solide. Mais il y a également trois darses qui sont prévues, dont deux qui sont réalisées, qui sont des darses à conteneurs. Il y a également un quai à conteneur qui est aménagé un peu plus tard à Mouropiane, mais quand même le gros du conteneur sur Marseille-Fos, c'est quand même la Darse 1 et la Darse 2. Il faut quand même savoir que pour la France, Marseille n'est que le second port à conteneur, c'est Le Havre le premier port. Moi j'ai entendu mon père rouméguer pendant toutes les années 60, et à juste titre d'ailleurs, contre le port du Havre, parce qu'à l'époque la politique gaulliste qui voulait ancrer définitivement la construction européenne privilégiait les ports du Nord, c'est-à-dire Le Havre et Dunkerque, au détriment de Marseille. Quoi. Mais,
quand on dit Marseille, on compte Fos dedans ?
Oui, bien sûr, oui, le port autonome, c'est Marseille-Fos, c'est-à-dire Marseille les bassins Est et Fos les bassins Ouest. Et donc, si tu veux, Marseille a été un port de négoce pendant jusque vers le milieu du... On va dire jusqu'à la Révolution française, allez. Après, bon, il y a un effondrement du trafic maritime à cause des guerres napoléoniennes, le blocus anglais, tout ça. Vers 1840, les Marseillais transforment délibérément le port de négoce en port industriel. Et résiste à la tentation gouvernementale des gros entrepreneurs comme Talabo d'en faire un port de transit. Bon, après, il y a l'autre étape, c'est l'arrivée du protectionnisme vers 1890 qui va enfermer l'espace maritime de Marseille à l'intérieur de l'Empire colonial, ce qui n'était pas le cas. Je veux dire, le Marseille port colonial, ça n'a jamais été une évidence, c'était pas acquis du tout, il y a eu beaucoup de résistance à ça au départ. Les négociants et armateurs marseillais avaient un espace plus jeune. Mais les armateurs se sont vite coulés dans le moule parce qu'ils y trouvaient un avantage énorme. C'est-à-dire c'était le monopole du pavillon. Et c'est pas par hasard, c'est par exemple un armateur comme Fraissinet Fraissinet était notoirement lié à l'extrême droite. Dans les années 30, il soutenait les Croix de Feu, il a soutenu Sabiani. pendant la guerre d'Algérie, dans son journal Le Méridional de la France, il soutenait la cause de l'Algérie française, il soutenait plus ou moins ouvertement l'OAS, etc. On a des positions très nationalistes parce que c'était son espace vital, cet empire colonial. Hein. Il s'était adapté, il s'est pris une rente de situation. Quoi. Et le fait est qu'une fois l'empire colonial démantelé, ça a été très vite. Hein. Et donc actuellement, si tu veux, au début des années 70, quand le complexe de Fos a été fait, c'est un complexe qui a été dirigé depuis Paris, hein, la réalisation de ce complexe. Il s'est trouvé, quelque part, c'est un port sans ville. C'est-à-dire c'est un port qui fonctionne complètement à part de Marseille. Y compris les usines d'ailleurs, la sidérurgie, la pétrochimie, tout ça fonctionne. Quelque part, on rejoue la fondation de Marseille. C'est-à-dire, on trouve un site à côté de l'embouchure du Rhône, une espèce d'immense espace vierge où on peut installer les usines, stocker les conteneurs, faire des gares de triage, etc. Et on recrée. Mais c'est plus une ville-port, quoi.
C'est... Oui, c'est pas vivable, c'est trop pollué de toute façon.
Les marins qui débarquent, les marins qui font escale à Fos, ils sont à plaindre. Les mecs, il n'y a aucun endroit où sortir. Il y a ce prêtre là qui va les chercher en camionnette, qui les amène un peu dans un foyer à Port-de-Bourg, je crois. Mais sinon, sans lui, les types, ils resteraient à bord. Ça résume bien la déshumanisation achevée du monde du transport maritime. C'est-à-dire tout ce qu'il y avait encore d'humain, d'intervention humaine, de relations humaines dans l'univers du transport maritime, du négoce maritime, a totalement disparu. Maintenant, tu as des bateaux, cet énorme porte-conteneur lancé, le plus gros du monde, là, qui a été lancé par Maersk. Comment il s'appelle ? C'est un truc. Il peut transporter jusqu'à 250 000 tonnes. Un bateau qui fait 400 mètres de long. Ils sont 10 à bord pour le faire naviguer. T'imagines ? Et voilà, je veux dire, de plus en plus, l'intervention humaine a été éliminée. Les navires sont de plus en plus informatisés. La conteneurisation, en supprimant les ruptures de charge, le travail sur les quais est devenu beaucoup plus automatisé. Maintenant, un docker, c'est un grutier ou un conducteur de portique. Et donc, si tu veux, les ports ne sont plus ces entassements de marchandises qu'ils étaient à l'époque, c'est des amoncellements de parallélépipèdes d'acier à perte de vue. Et on est dans la logique du flux tendu, quoi. Rien ne doit arrêter le va-et-vient de la marchandise à la surface du globe. Ceci dit, les ports méditerranéens, enfin Marseille, Barcelone, Gênes, Naples, etc., sont quand même c'est des ports marginaux par rapport à l'ensemble du circuit maritime, des circuits maritimes mondiaux. Ce qui n'était pas le cas jusqu'il y a à peu près 50 ans. Marseille, c'était un des ports les plus grands du monde, le plus important du monde. Actuellement, en Europe, les trois premiers ports, c'est en conteneur, hein, c'est Rotterdam, Hambourg et Anvers. Les six premiers ports conteneurs du monde, c'est Hong Kong, Singapour, Il y a deux ports chinois, un port taïwanais, un port thaïlandais, je crois. Ça, c'est les plus gros ports du monde. Après, on a trois ports américains, donc évidemment New York. Et en port européen, on a donc les ports de la Méditerranée arrivent bien oui, là. C'est-à-dire la Méditerranée est quand même devenue marginale par rapport à l'ensemble. Ceci dit, elle abrite à elle-même à l'intérieur un circuit d'échanges régionaux intense. Ce qui est quand même le plus significatif pour nous, pour Marseillais, c'est quand même le fait que Marseille est devenue une place maritime périphérique. Quoi. Peut-être pas périphérique en Méditerranée, mais périphérique dans le monde. Quoi. Ce qu'elle n'était pas. Quoi. Et qu'une grande part de toute façon du tonnage que revendique le port autonome de Marseille est de toute façon du tonnage de transit pur. Dire le pétrole, le gaz et les minerais qui vont à fosse. Ce qui veut dire vraiment que le trafic proprement Marseille des bassins Est n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. Et que pour la première fois en plus dans l'histoire de Marseille, les Marseillais ont cessé de naviguer. Les derniers navigants, les derniers inscrits maritimes qui restaient, qui restent encore, c'est ceux de la SNCM. Si on accepte les pêcheurs, parce que les pêcheurs aussi sont des inscrits maritimes. Même les pêcheurs, il y en a de moins en moins de toute façon, puisque les directives européennes ont fait disparaître la moitié des pêcheurs marseillais. Mais en marin, proprement dit, il restait la SNCM, donc qui était une compagnie mixte, mais bon, qui est maintenant passée au privé, puisque Butler en avait 38%, Veolia, je crois, 32%, l'État, un pourcentage à peu près analogue, et puis une petite partie aux salariés. Donc je pense que très vite le personnel va se réduire, les départs à la retraite seront pas remplacés. Ils vont pas tailler dans le lard parce qu'ils savent que les mecs ont une capacité de riposte dans l'immédiat, quoi. Ils l'ont montré d'ailleurs lors du conflit de la SNCM et plus que ça. Mais à mon avis, petit à petit, je pense que le nombre d'inscrits maritimes va devenir dérisoire sur Marseille. Quoi. Et ça, c'est peut-être le truc le plus terrible pour l'histoire de cette ville qui a toujours vécu avec la mer. Quoi. Que la mer, maintenant, ne soit plus pour Marseille que quelque chose de symbolique qui apparaît en représentation, quelque chose qui est mis en scène, et non plus une relation réelle. Quoi. Mm. C'est plus un espace d'échange maritime. Là. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est terrible pour Marseille. Quoi. Et on va arrêter sur cette note.
Optimiste.
C'était Alessi Dallumbria, l'auteur de l'Histoire universelle de Marseille de l'an 1000 à l'an 2000, sorti aux éditions Agone. Demain, Alessi continue de nous raconter la ville. Le rendez-vous sera à la même heure, à 10h, autour de la normalisation culturelle de Marseille, la question linguistique ou comment le français a effacé la langue d'oc. À demain. Mais de faire le coco, il n'y a rien. Mais de faire le coco, il
Dormamu dokona Benzeve le koko ina e Amude Ay tepe londona Ay tepe londo e Ay tepe londe ko ina e Benzeve le ko e Dorma muto kona Bende felen kuhoy na ye Amde Felen kuhoy efe komplidi Efe komplidi Ifo kuhoy mombre Efe komplidi Mpuchi mjet Mpuchi mjet Efe komplidi Dormamu doko Mbende vele koko Ina ko ina ye Hey!